Chaque année, c'est vrai, on parle de millions de personnes qui bougent, qui traversent des frontières. C'est un phénomène énorme qui façonne notre monde actuel. Aujourd'hui, on va justement se plonger dans les documents qu'on a reçus sur ce sujet, les migrations internationaux.
Oui, tout à fait. Et ce qui ressort de ces sources, c'est vraiment la complexité de tout ça. L'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu les caractéristiques principales et de comprendre les impacts. Parce qu'il y en a partout, au départ, en transit, à l'arrivée.
D'accord. Et la question de fond qui semble émerger de tous ces textes, c'est un peu qu'est-ce qui motive ces migrations aujourd'hui et comment elles transforment concrètement les territoires? Alors, allons-y, regardons les faits.
Commençons par les chiffres, peut-être. On parle d'environ 280 millions de migrants internationaux. Ça représente 3,6% de la population mondiale. Mais ce chiffre global, il cache une réalité importante soulignée dans les sources.
C'est la concentration, c'est ça.
Exactement. Une très forte concentration géographique.
Oui, ça m'a marqué aussi. On est loin d'imaginer que ça se disperse partout. En fait, les documents disent que plus de la moitié, 52%, vit dans seulement 10 pays. Et puis, il y a ces fameux corridors, ces axes très nets. Mexique vers les États-Unis, bien sûr, Syrie vers la Turquie.
Inde vers les pays du Golfe, et puis plus récemment, l'Ukraine vers la Pologne, évidemment. Et autre point très important qui ressort, c'est l'ampleur des migrations régionales, et aussi des migrations sud-sud. On a souvent l'image des flux vers le nord, vers les pays riches, mais en réalité, une grosse partie des mouvements se fait entre pays du sud.
Ah oui, comme en Asie ou en Afrique par exemple.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui pousse les gens à partir? Les documents parlent d'un mélange de raisons, c'est rarement une seule cause, j'imagine.
Jamais ou presque. C'est toujours un cocktail. Bon, il y a l'économie, hein, la recherche d'un travail, c'est classique. Mais aussi fuir les conflits, les persécutions.
Oui, les raisons politiques. Et de plus en plus, on voit apparaître les facteurs environnementaux, non?
Absolument. Le changement climatique devient un moteur de migration. Et puis, il y a les raisons personnelles. Rejoindre sa famille, faire des études. La nature de ces migrations, elle varie aussi. Volontaire ou complètement forcée.
Et toute cette diversité, elle se retrouve dans les statuts juridiques des personnes, j'imagine.
Tout à fait. On a le statut de réfugié, bien défini par la Convention de Genève, mais aussi les migrants économiques, les étudiants, et puis tous ceux qui sont en situation irrégulière.
Et un point soulevé qui est intéressant, ce statut, il n'est pas gravé dans le marbre, il peut changer pendant le voyage.
Oui, c'est fluide, ce qui nous amène d'ailleurs aux acteurs qui sont impliqués là-dedans. C'est tout un écosystème. Il y a les États, bien sûr, avec leurs politiques migratoires, qui peuvent être très différentes, très changeantes aussi. Les ONG, qui apportent une aide humanitaire cruciale sur le terrain.
Et puis des réseaux plus informels, les diasporas par exemple, qui aident à l'accueil.
Oui, les diasporas jouent un rôle fondamental. Et puis, il y a les passeurs.
Ah, les passeurs. Les sources en parlent comme d'acteurs ambivalents, c'est ça. Ils permettent le passage, mais...
Mais dans des conditions souvent effroyables et à des coûts exorbitants. C'est un rouage quasi incontournable, mais extrêmement dangereux de ce système.
Et tous ces flux, tous ces acteurs, ça a forcément des conséquences sur les territoires. Pour les pays de départ, les textes évoquent un double visage.
Oui, il y a le risque bien connu de la fuite des cerveaux, la perte de compétences.
Mais de l'autre côté, il y a les remises, l'argent envoyé par les migrants. Et ça, pour certains pays comme les Philippines ou le Népal, c'est carrément vital. C'est mentionné plusieurs fois.
C'est une part essentielle de leur économie, oui. Et dans les pays d'arrivée, c'est aussi contrasté. D'un côté, les migrants comblent des besoins de main-d'œuvre, parfois dans des secteurs que les locaux boudent un peu.
Et de l'autre, bah, ça peut créer des tensions sur l'emploi ou des questions d'intégration culturelle. Les politiques d'accueil jouent beaucoup là-dessus.
Énormément. Elles peuvent soit faciliter, soit exacerber ces tensions.
Et un mot sur les zones de transit, les frontières. Les documents les décrivent comme des lieux de plus en plus difficiles à franchir.
Oui, des zones de blocage en fait. Avec la multiplication des murs, des clôtures, c'est très visible.
Et la conséquence directe, c'est que les routes deviennent plus dangereuses.
Terriblement plus dangereuses. Le chiffre donné pour les frontières européennes est plus de 40 000 morts estimés depuis 1990. Ça fait froid dans le dos. Ça montre bien ce durcissement.
C'est effrayant. Un point aussi qui m'a semblé crucial, c'est la question des migrations liées à l'environnement. Les sources insistent sur un vide juridique.
C'est exact. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de statut international clair pour ce qu'on appelle parfois les réfugiés climatiques ou migrants environnementaux.
Et c'est un problème majeur alors que tout indique que ces déplacements vont augmenter.
C'est une lacune béante du droit international, oui. Ça pose de vraies questions de responsabilité collective face au changement climatique.
Pour comprendre tout ça, l'analyse suggère d'adopter une vision à plusieurs échelles.
Oui, une vision multiscalaire. c'est-à-dire regarder les impacts au niveau local, un quartier qui se transforme, un centre d'accueil qui ouvre.
Au niveau national, les débats politiques, l'identité.
Et au niveau mondial, comment ça redessine les flux, la géopolitique.
Donc, en résumé, si on reprend les points clés des sources en jeu, un phénomène complexe, aux causes multiples, avec des acteurs très divers et des impacts profonds, contrastés à toutes les échelles.
C'est exactement ça. Les migrations redessinent vraiment nos territoires et soulèvent des questions fondamentales pour nos sociétés.
Et pour finir, une question pour prolonger la réflexion qui vient tout droit de cette analyse. Maintenant qu'on anticipe une hausse des migrations climatiques, comment est-ce que cette absence de statut juridique clair pourrait bien affecter les relations internationales et notre façon d'aborder les défis mondiaux à l'avenir ?
C'est la grande question en suspens, effectivement.